Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue, c'est votre nouveau rendez-vous, 22h minuit, 2h en direct avec ce soir des projets fous. L'enfance de Jeanne d'Arc version heavy metal, c'est le nouveau film de Bruno Dumont, une comédie musicale complètement barrée signée par le cinéaste du Petit Coin Coin qui sera au téléphone et c'est sa jeune actrice Lise Leplat Prudhomme. 9 ans, qui sera notre invité plateau. Autre projet dingue, et ils en sont coutumiers puisqu'ils ont même signé une comédie musicale sur Ingmar Bergman. Ils ont rejoué tous leurs albums en un mois en concert. Aujourd'hui, ils mettent un hippopotame dans leur piscine. The Sparks sont nos invités live. C'est le triple instant V de Valli.
Oui, 3 titres en live, donc 2 nouveaux et un ancien qui va vous faire hyper plaisir, les auditeurs de France Inter.
Hyper dansé. Et puis c'est vous, Valli, qui aurez le mot de la fin avec le questionnaire du tac au tac, c'est-à-dire la musique pour le meilleur et pour le pire. Ce soir, qui avez-vous mis à la question?
Bah, c'est Albin de La Simone, parce que lui aussi, il a signé un compte musical.
23h, le journal. Alors, on s'en va. 23h15, on revient avec le Énervé de la Suite. Et ce soir, au programme, eh bien, on repart sur les chemins de l'école. Mais on l'a déjà fait hier soir. C'était le dossier rentrée des classes, Benoît Lagan.
Oui, mais là, on va pas aller du côté des rythmes scolaires, de la réforme des programmes. Non, on va aller ailleurs, sur les chemins de l'école, le documentaire culte de nos enfants. Et on en parle avec toute l'équipe du film, le producteur Barthélémy Fouja, la scénariste Marie-Claire Javoy, Frédéric Brunkel, l'un des réalisateurs de la série, et une journaliste de Mon Quotidien, vous savez, le quotidien des enfants, Raphaël.
Donc, sur le chemin des écoles du monde entier,
voilà, c'est-à-dire
les montagnes qu'il faut traverser, les déserts
pour aller à l'école. 8 heures de marche pour aller à l'école, vous vous rendez compte?
Le NRV, 22h minuit, c'est reparti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et sans plus attendre, ils sont derrière nous, stylisme impeccable, coiffure pareil. Valli, sont nos invités?
Oui, depuis plus près de 50 ans, ils font la pop qui leur plaît. Moi, américaine, j'ai toujours cru que les frères Sparks étaient anglais, en tout cas européens, leur look, leur son, leur attitude. Que nenni, ils sont ricains, comme moi. Ils quittent leur Californie natale en pleine période hippie et s'exilent en Angleterre. Leur premier tube, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, un morceau baroque et pop, sort en 1974, un an avant Bohemian Rhapsody du groupe Queen. Ils vont le chanter ce soir, Laurent. 23 albums plus tard, et le premier en 8 ans, les frères Mel sortent Hippopotamus vendredi. Il est aussi pertinent qu'il y a un demi-siècle. Ils sont dans le nouveau rendez-vous ce soir pour 3 titres, dont 2 de ce disque. Le premier s'appelle Edith Piaf Said It Better Than Me. Sparks sur France Inter et sur Facebook Live. C'est à vous.
It's a heartwarming song for the easily moved. The effect is all wrong. Plain to see I'm not moved. As I stand in the light of a shop that is closed. God, I'd love me a fight. Then the poem disclosed. Edith Piaf said it better than me. Je ne regrette rien. Pretty song but not intended for me. Time to put some music on. There were no smoky dyes. Fewer moves, fewer knots. There were no petty crimes. Foreign substances bought. There were no midnight drives with a crime boss's wife. Need a second at most. Innocence in my life. Edith Piaf said it better than me. Je ne regrette rien. Pretty song but not intended. To put some music on. Smoking and long lived. A Montparnasse lights. holding a hand of kings. My hunch was right. When's that night? He that be, I've said it better than me. Sure no regret early on. Pretty song, but not intended for me. Time to put some music on. Fast and die young, live fast and die young, live fast and die young. Too late for that, too late for that. Live fast and die young, live fast and die young, live fast and die young. Too late for that, too late for that. Live fast and die young, live fast and die young, live fast and die young. Too late for that, too late for that. Live fast and die young, live fast and die young, live fast and die young. Think of one single night, one so strong you're aflame. Well, I'm sorry, time's up. Sorry, nothing will change. Edith B., I've said it better than me. Sure, no regret to be on. Pretty song, but not intended for me. Time to put some music on. Edith B., I've said it better. Said it better than me. Je ne regrette rien. Pretty song, but not intended for me. Listen as of music gone. Edith B., I've said it better.
Dans le nouveau rendez-vous.
Merci.
Sur France Inter.
Merci.
C'est un extrait de leur album qui va sortir seulement vendredi. Edith Piaf, said it better than me.
Edith Piaf l'a mieux dit que je ne saurais le faire.
Exactement.
René Russell vient de nous rejoindre.
Voilà, au voix c'est Russell Mayle, au piano bien sûr Ron, guitare Evan Weiss, guitare, l'autre guitare Taylor Locke, à la basse Zach Dawes, keyboard, ça veut dire les claviers, Tyler Packford, et à la batterie Stephen Nistor. Et bien sûr, vous allez retourner à table, retourner tout à l'heure, jouer deux
titres,
autres titres.
Dans moins de 10 minutes. Juste une question, Russell, puisque c'est vous qui chantez ce titre. Edith Piaf l'a mieux dit que je ne saurais le faire. Quel est ce lien que vous avez, vous, chanteur, avec Edith Piaf?
Well, we've always been francophiles.
Vous savez, on a toujours été francophile.
Sometimes France appears
et parfois,
in,
la France
in songs that we've
apparaît
done.
Dans this, des chansons this song que l'on composait.
The title of obviously
cette chanson-là
one of her most,
a repris bien
songs,
sûr un des titres les plus connus de Piaf, chanté par un type qui aimerait avoir quelque chose lui-même à regretter, une vie torturée, très pleine de choses, avec dans des bons côtés, des mauvais côtés. Et donc, il écrit une chanson et il espère que cette situation serait la sienne. Il aurait. Mais alors que sa vie n'est pas si intéressante. Mais il dit, voilà, je n'ai rien, je ne peux pas vraiment comparer avec ce qu'elle chante, elle.
D'ailleurs, vous dites dans la chanson aussi, vivre vite, mourir jeune. C'est pas votre cas,
c'est
en tout
raté.
Cas.
But it's not your case, isn't it?
Well, in the song, the guy also then says,
dans,
it's too late for that.
Il dit même que c'est trop tard, il est trop tard pour ça même.
Alors justement, on parlait de votre, je sais pas, on dirait que vous avez une vraie histoire d'amour avec la France, entre autres Léos Carax, dont on entend la voix sur le disque, il y a la collaboration avec Catherine Ringer, vous devez peut-être tourner avec Jacques Tati. Quand est-ce que ça a commencé, cette francophilie, comme vous dites?
Je ne sais pas, ça s'est arrivé comme ça au cours des années. On a été contacté pour un projet avec Jacques Tati dans les années 70.
Et
pour des raisons de santé et de finances, ça ne s'est pas fait. Mais on a toujours été attiré depuis l'université, en fait, par la culture française, en particulier le cinéma français. Et avant même de venir en France, ce qu'on connaissait de la France, c'était les films de Godard, du Truffaut. C'était ça notre éducation.
Léo Scarrax a un projet de film avec vous, je crois qu'il va tourner Annette, c'est un opéra rock que vous avez composé. Est-ce qu'il y a un rôle pour vous dans le film qui pourrait rattraper le temps perdu avec Jacques Tati?
On s'est assuré qu'on s'écrivait un petit rôle, une apparition que l'on fera dans le film, oui.
C'est
un projet qui nous enthousiasme particulièrement, parce que c'est quelque chose qu'on a créé depuis le départ. Et c'est très inhabituel pour Carax parce que, d'habitude, il prend des éléments dans des romans où il écrit ses histoires.
Mais
là, vraiment, l'histoire lui a beaucoup plu. Et c'est une forme musicale parce que tout le dialogue est complètement en chanson. C'est la première fois qu'il fait un film en anglais. Et donc, on a l'impression vraiment, on est vraiment honoré que Léos a trouvé quelque chose, a vu quelque chose dans ce projet. Et puis qu'il a décidé de le tourner. Et puis il y a Adam Driver qui va jouer dedans. Et aussi Michelle Williams.
C'est chic. On parlera tout à l'heure encore de cinéma avec vous, mais...
Oui, alors, on continue avec l'histoire d'amour avec la France. Hier soir, vous étiez sur la scène de La Cigale pour fêter les 30 ans de cette salle. Et vous avez notamment chanté sur scène avec Catherine Ringer le titre qu'on adore tous en France, Singing in the Shower, qui était créé en 1988. C'est quoi votre relation? Est-ce que vous vous souvenez quand vous l'avez rencontrée et est-ce que vous êtes resté en contact avec elle depuis presque 30 ans?
La première fois qu'on a rencontré Catherine, on l'a rencontrée avec Fred. Ils jouaient à Los Angeles. On a lu un article où on parlait on aimait leur musique, mais c'est cet article qui disait qu'ils aimaient les Sparks. Alors ça, vraiment, ça a été vraiment le déclic pour aller les voir sur scène. On les a vus backstage, et on s'est dit, ouais, il faudrait qu'on fasse quelque chose un jour. Ils faisaient l'album Marc et Robert, qui était produit par Tony Visconti.
Producteur de Bowie.
Ils nous ont demandé si on pouvait collaborer, si on avait envie. On a écrit deux chansons pour cet album. Et puis on est venu en France pour travailler avec eux deux et Tony Visconti. C'était une grande émotion. Et on a beaucoup d'affection que l'on partage avec elle et ça continue. Pour elle en tant qu'artiste et aussi en tant que personne. On aimait beaucoup Fred aussi, bien sûr. C'était un type extraordinaire, fantastique, un musicien. Et c'était quelque chose tellement amusant de faire ces chansons avec eux. Et aussi même la promotion qu'on avait faite de l'album.
Super.
Les émissions télé.
Vous pensez à quoi, par exemple, comme émission de télé avec eux?
Do you remember those TV shows with them?
Yeah, we.
On avait fait Taratata.
Avec Nagui, ouais.
Oui, and a little known fact too,
et aussi, c'est moins connu, mais
Lerita Mitsuko,
le nom, vient d'un de nos premiers albums. Parce qu'on avait cet album qui s'appelait Kimono My House, et c'était un jeu de mots avec la langue japonaise, et ça leur avait plu. Et donc, ils ont poussé un peu l'idée, et ils ont créé ce faux nom japonais, Rita Mitsuko, pour se nommer, pour leur nom de scène.
Eh bien, on va vous retrouver tout de suite pour deux titres consécutifs. Vous retrouvez vos musiciens, René Russell.
Et puis, je vais juste ajouter que pour ce titre, Singing in the Shower, c'était un clip qui était tourné par Jean-Baptiste Mondino, un super clip que j'ai eu l'occasion de revoir l'autre jour. Alors là, Sparks vont jouer un autre titre de leur nouvel album, qui, je vous rappelle, sort vendredi chez BMG. C'est un drôle de titre, Missionary Position, ça veut dire la position missionnaire.
C'est pas un drôle de titre.
Voilà, ça arrive à le meilleur entre nous, je pense.
C'est le deuxième sur le disque.
c'est le deuxième et j'aime beaucoup.
Et ensuite,
on
aura droit à un gold. On n'en dit pas plus.
On ne dit pas plus, mais restez avec nous. Ça y est, tout le monde est en place.
En
Ron
live.
Derrière le piano et puis bien sûr Russell avec le micro, avec un fil rouge qui va avec ses lacets.
Exactement, j'ai fait ça exprès.
Bah, c'est super bien. Et ça ne va pas manquer. C'est à vous, monsieur.
It's a little retro and a bit passé, but you know we'll make her feel okay. And she feels so right, the stars are bright, the missionary position. And the acrobats, well, they tend to score. All you know is that you can get her off, and you feel alright, the stars are bright, the missionary position. The tried and true is good enough for me and you, for me and you. The tried and true is good enough. Don't need any more. We don't need any more. A rebranding effort might just be the thing, but our name's a name and we'll continue being always feeling fine. It ain't the wine, it's a missionary position. There are pros and cons to each different pose, but I don't see any need to get to those, 'cause we're feeling great, a heightened state, the missionary position. The tried and true is good enough for me and you, for me and you. The tried and true is good enough. Don't need any more, we don't need any more. Don't need any more. You might have positions you can recommend, but I don't know if we'll ever get to them, 'cause we're feeling great, a heightened state, the missionary position. You might love to see, you're so awful.
Super titre, Sparks, dans le nouveau rendez-vous sur France Inter, extrait de leur album qui sort
vendredi prochain.
Alors maintenant, it's a gold, we call it gold, même en France, we still say it's a gold in French. Et c'est votre plus grand tube, je pense. Would you like
J'espère.
To... J'espère, mais je On vois verra. Que c'est vrai. On verra bien. Ça s'appelle « This town ain't big enough for the both of us ».
1974.
And heartbeat, you hear the thunder of steps, beating riders, elephants, and tacky tigers. This town ain't big enough for the both of us. And it ain't me who's gonna leave. Crying, domestic flying, and when the spirit is here, do not show me any fear. Heartbeat, increasing heartbeat. You are a cat because the farmer did it. No sheep, but that you need it. This town ain't big enough for both of us. How can they be who's gonna leave? Davey, hex up on Sunday. You dive a little to the cafe where you meet her each day. Heartbeat, increasing heartbeat. As 20 cannibals have been revealing their protein just like you do. This town ain't big.
Please come back to the table. Le prise de son, Dimitri Gronoff, Loïc Frapsos, Gilles Gaillard et Jean-Louis Deloncle. Et
une programmation de Marion Guilbeault.
Voilà, Jacques Manqueste. Venez, come back and see us. Je veux juste rappeler que le Sparks seront en concert à Paris à la Gaîté Lyrique le 1er octobre prochain. Yeah, I'm telling them about how you're going to come back finally to Paris. J'ai dit quand je vous ai présenté tout à l'heure que moi, américaine, je croyais toujours que vous étiez anglais, européen, allemand à la limite. Et je pensais pas que vous étiez américain. Alors, vous avez quitté les États-Unis au début des années 70 pour vous rendre justement presque exilé à Londres. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'aurais pu penser que vous étiez européen? Sparks, Ron and Russell?
It's a common... misconception like
c'est souvent, c'est une erreur qu'on fait souvent.
There's just something inherent in
il y a quelque chose qui vient
de
notre musique,
the style that we do
le
and
style,
the image that the band
les images
has,
que porte notre groupe, et ça a une résonance, en tout cas au début, avec le public européen. Ça marche. Maintenant, ça marche un peu ailleurs. Et même des Américains pensent que les Sparks, ce sont les Anglais.
Outer
ou alors peut-être de l'espace.
Mais c'est peut-être aussi quelque chose dans la façon aussi que vous avez de concevoir, d'écrire les albums. Par exemple, là, ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, c'était le deuxième et le troisième titre. Mais le premier... Le titre par lequel on entre dans l'album est très étrange. C'est un titre très très court. Et je voulais savoir si vous pensiez vraiment au premier titre des albums, la façon dont on entre dans un album.
do you think about the first song?
Ça s'appelle Probably Nothing.
Well, actually, we kind of write them all, and then the order is figured out.
Toutes les chansons et après, c'est après coup que l'on réfléchit à l'ordre dans l'album.
Donc,
j'ai jamais pensé que la première chanson devait être plus courte, non?
Non, pas plus courte, assez étrange.
Strange.
On the new album, on Hippopotamus, the song you mentioned.
Dans le nouvel album, dans Hippopotamus, la chanson dont vous parlez, nous a semblé être une bonne introduction à l'album dans son ensemble.
Really didn't kind of give you a true indication.
Il fallait pas que ça vous donne une indication précise sur ce qui allait suivre.
It doesn't have rhythm on it, and it's a very short little, more so about a guy that he has something to tell.
Quelqu'un qui comme ça qui fait comme s'il avait raconté quelque chose.
Il parle. It's probably nothing. It just doesn't come to his brain. You know, instantly what he wanted to tell her.
Quelque chose qui voulait lui dire à sa copine. Et c'est ça les paroles de. C'est comme une petite vignette un peu qui introduit. Au reste. C'est comme une chose de fausse pub. Les gens qui doutent un petit peu, qui se demandent ce que c'est, ils se disent bon, peut-être que c'est un album un peu tarte de gens qui écrivent des chansons. Et bon, voilà, on a commencé ça comme ça.
D'accord, sur une fausse pub pour l'album.
Juste une question avant mon tac au tac. Est-ce que je peux demander, parce que le pop, on utilise le mot pop culture, pop musique un peu partout. Est-ce que le pop veut dire quelque chose pour vous aujourd'hui, Sparks? La pop musique.
Pop music, does it mean something?
Anymore.
Well, our hearts have always lied in pop music.
Dans notre
but to be
cœur,
honest,
c'est vraiment la pop musique qui est importante pour nous, mais peut-être qu'on peut maintenant un peu perdre ces illusions là-dessus. Il y a un manque d'aventure vraiment dans beaucoup de musique que l'on entend aujourd'hui.
And so we, you know, in our small way, we're
et donc,
just
de notre façon modeste, on essaie de faire des choses qui veulent provoquer, veulent avancer. Et on essaie de rester fidèle à ce que la pop musique peut être. Pas vraiment de la redéfinir forcément, mais simplement, avec nos chansons, de faire quelque chose qui soit particulier.
Vous, vous écoutez qui aujourd'hui? À part vous.
Except yourselves.
That's a hard question.
Pregnant pause.
Pregnant pause. It's
no, pregnant pause.
We listen to a lot of contemporary things,
beaucoup de
but
choses
mostly,
contemporaines, mais
as far as
surtout,
like knowing what the sound landscape is nowadays, so that,
vous savez,
so that the
sound
of our records,
le son des disques est très important. Le son peut
être
contemporain, même si on n'a pas forcément dans le coup, forcément à chaque fois. Mais nous, on préfère être stimulé par d'autres groupes. Et aujourd'hui, on trouve ça moins. Quand on est arrivé ici dans les années 70, il y avait Roxy Music, qui était notre contemporain, et on était même sur le même label. Et il y avait une sorte de compétition, disons. Ils sortaient quelque chose et puis on essayait de faire mieux. Il y a moins ça maintenant, aujourd'hui.
Alors, j'ai quelques questions pour vous, Ron et Russell. Vous pouvez répondre assez rapidement, si c'est possible. Quelle musique...
Oublie ça.
Quelle musique écoutaient vos parents?
Well,
Ron, il y a des gens qui pensent qu'on vient vraiment d'un milieu super éduqué, mais le disque que notre père nous a donné, offert, c'était un disque de Elvis, Don
Biko,
et aussi Little Richard. On n'a pas été élevé dans le monde de l'opéra, par exemple, ou dans le monde du jazz. Ça a toujours été de la pop autour de nous. Ron a même le 78 tour qui est maintenant dans un coffre parce que si jamais il y avait un tremblement de terre, on veut vraiment que ce disque-là il soit préservé.
En ce moment, c'est plutôt une bombe nucléaire, je pense. Mais bon, pensons pas à ça.
C'est une autre histoire.
Exactement. Russell, quelle est la meilleure façon pour soigner votre voix, parce que votre voix est vraiment reste intacte?
Your voice is intact.
Oh, you know, just try to take good care of myself.
And de prendre soin de moi.
Like other Californians, I suppose.
Comme d'autres Californiens.
I go to the gym a lot.
Je vais faire de la gymnastique.
Going to the gym a lot,
et je fais ça assez souvent. Je fais beaucoup de choses
cardiovasculaires
et puis ça augmente vos capacités vocales.
Boring and mundane.
C'est un peu banal et un peu
that,
chiant de dire ça, mais bon.
That and not smoking.
Mais ça, et puis j'ai arrêté de fumer.
Alors, qu'est-ce que vous ne feriez jamais sans votre frère,
brother,
Ron,
fight,
se battre.
Without him,
Sans lui.
La
seule personne avec qui je me bagarre, c'est lui.
Russell,
the only thing I would do
with, la seule chose que
you wouldn't do without him.
I wouldn't do without him.
Je ne ferais pas sans lui.
Probably go on tour.
Sans, partir en tournée.
Alors, vous avez compris, alors, Ron, vous... Oui, OK. Donc, je ne sais pas si Harold...
La tournure était très, très difficile.
Voilà, Harold Manning, et je pense qu'il assure. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous ne feriez jamais avec votre frère, Ron?
Fight.
Non.
La même chose.
Shop for clothes.
Sur quoi?
Shop for clothes.
Faire du shopping,
shopping
pour,
shopping.
Pour, mais pour les vêtements.
I would never do it with him. We have our separate kind of taste.
On fait ça. On a des goûts très différents. Et voilà.
Hey Russell,
never go on a double date.
Jamais je j'irai.
Do you have double dates in France?
Vous avez ça en France, les double dates, les
c'est-à-dire deux couples,
sortent ensemble.
Ensemble. Donc vous faites.
They have ménage à trois, so they must have some.
Ils ont, en France, ils ont des ménages à trois, alors il doit bien avoir des double dates.
Oui, on en a aussi, pour assurer.
Pas mal du tout. Alors, quelle est la musique, Ron and Russell, qui vous fait éteindre la radio?
Pretty much anything that's being played is difficult.
Musique qui passe aujourd'hui, hein, aujourd'hui c'est difficile.
Non, c'est pas possible.
Non,
et vous, Russell?
Well,
and you, Russell?
Oh, I don't know. Just anything with that lacks sort of an adventurous spirit to it.
D'esprit aventureux.
Kind of, non aventureux.
Non aventureux.
D'accord.
D'accord.
Tout ce qui manque d'esprit aventureux. Tout ce qui manque de okay. cet esprit.
Juste, il y avait une autre question que je me posais pour élargir un petit peu au-delà de la musique. Parce que quand on écoute les paroles de vos chansons, généralement, elles ont une dimension un petit peu humoristique. Et pour autant, il y a derrière une certaine profondeur, chaque fois, c'est-à-dire à double sens. Et je me demandais si la politique était un sujet que vous aviez abordé, même de façon sous-jacente. Et comment vous vous sentiez aujourd'hui, vous, les Sparks, dans l'Amérique de Donald Trump?
Well, we think that there's kind of a general political statement that
non,
we made all along.
Un sentiment politique général en ce moment.
The tried and true. We don't like to make direct political statements.
Qui en ce moment, on n'aime pas tellement parler de ça directement.
One thing is it's just too easy.
Parce que c'est trop facile, d'une part. Et d'autre part, c'est pas quelque chose qui dure.
And so, but there is a general political stance, I think, everything we do,
je dirais quelque chose de politique en général, oui, que l'on aborde. On suit notre propre direction. À nous, et on n'écoute pas tellement ce que les autres attendent. Vous parliez de l'humour, et il y a certainement un sous-texte sérieux dans nos chansons. Et c'est toujours intentionnel. Souvent, je pense que les auditeurs peuvent choper des choses de ça. Bien sûr, il y a des gens qui pensent que c'est simplement des chansons marrantes un petit peu et qu'elles manquent de quelque chose, d'une opinion, disons, mais c'est pas vrai.
Russell? Sur la dimension politique.
Ah oui, complètement.
Ça, il fait avec son frère. Il est d'accord.
Ça, il est vraiment d'accord.
C'était une super réponse. Hein. Vraiment, Russell.
Mais écoutez, merci à vous deux. Et comme on a évoqué Léo Scarrax tout à l'heure, eh bien, on va écouter la chanson qu'il avait choisie pour son film Holy Motors. Merci, Ron and Russell.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
How?
Are You Getting Home, un titre des Sparks retenu par Léo Scarrax dans son dernier film Holy Motors. Le prochain, ça sera d'ailleurs un opéra rock avec les paroles et les chansons des Sparks pour Léo Scarrax. Merci à Harold Manning pour l'interprétation simultanée de cette séquence.
Il est mieux que moi, j'avoue.
Alors, cette semaine, c'est vraiment fantastique. Hier, c'était Phoenix. Aujourd'hui, des Sparks. Et demain, Valérie, pour
c'est les Mariens de Amadou et Mariam.
Parfait. Ben, rendez-vous demain, Valérie. Alors, tout à l'heure, on aurait pu évoquer aussi la comédie musicale des Sparks sur Ingmar Bergman. On va parler maintenant d'une autre comédie musicale encore plus décalée. C'est le nouveau film de Bruno Dumont, Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc. Ça sort demain en salle. Un projet complètement fou, une comédie musicale chantée, dansée sur des accords de heavy metal et de pop furieuse pour faire écouter et vivre la langue de Charles Péguy. Alors, pour jouer à Jeanne, Dumont a appelé deux jeunes actrices non professionnelles qui chantent en son direct, car c'est ça la mission de Bruno Dumont. Il le dit lui-même, hein, il a besoin de vrais décors, de vrais gens, de vrais sons pour fabriquer de la fiction. On a rencontré donc la vraie Lise Leplat Prudhomme, elle a 9 ans, c'était avant la rentrée des classes, là elle doit être au lit, et Bruno Dumont nous a rejoint au téléphone. Lise Leplat Prudhomme dans Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, qui sort demain en salle, et bien ça donne ça.
Rendez-vous.
Oh maître, daignez pour une fois exaucer ma prière. En attendant un bon chef de guerre qui chasse l'anglais hors de toute France, délivrez les bons chevaliers de Monsieur Saint-Michel.
Le nouveau rendez-vous.
Oh mon Dieu, je vous en prie, une dernière fois.
Sur France Inter.
Dans le film Lise, tu es Jeannette enfant. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de Jeanne d'Arc avant de faire ce film?
Oui.
Qu'est-ce que tu savais d'elle?
Qu'elle avait entendu des voix.
Ouais.
Qu'elle avait été brûlée au bûcher.
Ouais.
Qu'elle avait sauvé la France.
Ouais.
Et
tu savais rien d'elle quand elle était enfant?
Non.
Et Bruno, qu'est-ce qu'il t'a dit de ton personnage? Qu'est-ce qu'il t'a raconté de l'enfance de Jeanne d'Arc?
Comment elle parlait.
C'est-à-dire, comment elle parlait? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial?
Je trouvais qu'elle parlait bien à Dieu. Elle était c'est une fille très très intelligente qui savait ce qu'il fallait faire pour la France. Et voilà.
Est-ce qu'il y a dans la jeunesse de Jeanne d'Arc quelque chose qui se rapproche un peu de toi? Est-ce que tu t'es reconnue un petit peu dans, non pas dans la vie qu'elle avait, mais dans sa façon d'être?
Oui.
Quoi, par exemple?
Comment elle était avec ses amis. Et ensuite, quand elle voulait quelque chose, elle le voulait. La preuve, quand elle était grande, elle l'a fait. Et moi, c'est un petit peu pareil.
Ah, c'est un petit peu pareil?
Ouais.
Quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir?
Enfin, pas je peux, mais je peux le faire, ou je peux, ouais, un peu pareil.
Tu as fait des essais avant de faire le film, j'imagine, et tu te souviens de ce qu'on t'a demandé avant de tourner, hein, c'est-à-dire oui. Quand vous étiez plein d'enfants, qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire, tu te souviens?
On m'avait demandé de chanter.
De chanter quoi?
De chanter des chansons. En fait, c'était des chansons qu'on voulait.
Et toi, t'avais choisi quoi?
Une chanson de Louane, une chanson de l'école et je sais plus.
C'est quoi une chanson de l'école?
C'était une chanson de Noël, parce que je m'en souvenais bien et du coup...
Et la chanson de Louane, c'était quoi?
Jour 1.
Louane, c'est une chanteuse que tu aimes bien?
Ouais.
C'est quoi les chanteuses que tu aimes bien? C'est qui les chanteuses ou les chanteurs que tu écoutes, toi?
En fait, j'aime un peu tout.
C'est vrai?
Tous les styles, ouais.
Du rap aussi?
Oui.
Beaucoup?
Oui.
Quel genre de rap?
Tous les raps.
Tous les raps?
Oui.
Parfait. Pour les chansons, ça s'est passé comment? Parce qu'on te voit chanter à l'écran, c'est ta voix qu'on entend, on te voit danser, on te voit chanter. Pour les chansons, comment ça se passait?
C'était une fille qui s'appelait Laure.
Ouais.
Elle me faisait apprendre les textes, elle mettait une chanson derrière, elle chantait, et ensuite je chantais. Elle apprenait les textes avec moi. En fait, c'était un peu pareil que les textes, sauf qu'on chantait.
Pendant que tu joues, pendant que tu danses, La musique, on ne l'entend pas parce que c'est tourné en pleine nature. Le son est direct, hein, c'est toi qu'on entend. Mais la musique, tu l'entendais comment en fait?
Dans l'oreillette. Je l'entendais dans l'oreillette. En fait, j'avais la musique dans l'oreillette. Et après, je chantais ce qu'il m'avait appris.
Ça, c'est facile de chanter avec une oreillette
Oui.
Ah ouais? Est-ce qu'il y a une chanson particulière dans le film que tu préfères avoir chantée?
J'aime bien « Je leur ai donné tout mon pain ».
Je leur ai donné tout mon pain, mon manger de midi, mon manger de 4 heures. Ils ont sauté dessus comme des bêtes, et leur joie m'a fait mal, encore plus mal, parce que tout d'un coup mal, et moi
Rendez-vous.
Bruno Dumont. Bonjour, Laurent Goumard.
J'entends la petite voix de Lise.
Mais oui, Lise est avec nous.
Bah oui,
vous voulez lui dire quelque chose?
Ben, je l'embrasse très fort.
Elle vous embrasse aussi, manifestement. Bruno Dumont, vous filmez Jeannette enfant puis adolescente, avant qu'elle ne devienne Jeanne d'Arc, qu'on a beaucoup vu au cinéma. C'est la Jeanne d'Arc sainte et guerrière. C'est-à-dire que pour vous, il fallait donner des images, un sens à cet oubli du cinéma par rapport à un autre aspect de la vie de Jeanne d'Arc?
Ah bah c'est certain qu'on connaît bien la suite,
ouais.
L'adolescence et en même temps elle est morte à 19 ans. Hein. Mm. Mais non, ce que moi je trouvais très intéressant, c'est de connaître le début de cette histoire et comment une jeune femme pareille naît dans une petite fille, en fait. C'était ça qui m'intéressait. C'était le petit cœur de Jeanne.
Dans le dossier de presse, il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué, vous la citez, c'est une phrase de Peggy. « Nous sommes ces enfants d'avant 12 ans », disait Peggy. C'est valable pour vous?
Ah oui, voilà. Comment? Non, je pensais qu'on a... D'ailleurs, on juge le temps quand on dit qu'on vieillit, tout ça, ça montre bien que le cœur ne bouge pas, que c'est lui qui trouve qu'il vieillit, donc il est donc très jeune. Je pense qu'on garde un cœur très jeune, et c'est ce que Peggy a bien compris, et donc en filmant l'enfance, je pense qu'on filme l'adulte, en fait, puisque le petit cœur est toujours là. Et le cœur de Jeanne, j'ai l'impression que c'est un cœur assez contemporain, d'ailleurs.
On va y revenir. Vous étiez quel enfant, vous, avant 12 ans?
Oh, j'étais un enfant turbulent, pas très sage, pas très travailleur, plutôt au fond de classe, quoi.
C'est vrai?
Ah oui.
On imagine tout le contraire.
Eh ben voilà.
Comme quoi. Alors, quand on filme Jeanne d'Arc, c'est aussi qu'on travaille une certaine idée de la France. Quelle est la France qui vous intéresse aujourd'hui pour filmer Jeanne d'Arc en 2017?
Moi, je pense que la France, elle est tellement difficile à saisir, parce qu'elle est tellement diverse et variée. On voit bien qu'on n'arrive pas à mettre un mot dessus. Et Jeanne d'Arc, c'est une belle métaphore de la France, en fait. C'est pour ça que elle est au bord du mythe, parce que je pense qu'elle englobe la diversité de la réalité française, de ce que nous sommes tous.
C'est-à-dire?
Pour le meilleur et le pire. Bah, de tous les côtés. C'est-à-dire tous les côtés de la politique, tous les côtés de la vie spirituelle, tous les côtés de ce qu'un être français peut être. Et ce qui fleurit dans tous les partis politiques, si vous voulez. Donc ça, c'est la fleur. Mais le cœur de tout ça, c'est forcément quelque chose qui nous est commun et qui nous rassemble. Et Jeanne d'Arc, on voit bien qu'elle intéresse aussi bien la gauche, la droite, les curés et pas les curés. Quoi.
Que l'extrême droite aussi, notamment ici en France.
Oui, ouais. Mais l'extrême gauche aussi.
Exactement. À quel moment vous avez eu l'idée de ce film, c'est-à-dire filmer même la langue de Charles Peggy? Parce que ça, c'est aussi une autre histoire.
Ah oui, c'est une langue extraordinaire, mais qui est tellement extraordinaire qu'elle paraît tout à fait inaccessible, tellement elle est belle, je trouve. Donc la poésie, on se la récite souvent à l'intérieur de soi, Et je trouvais que la seule façon, l'une des façons les plus expressives de parler, de faire surgir la poésie, je pense que c'est par la musique. Parce que là, elle est vraiment à fleur de peau. Et donc, quand j'ai lu Peggy, j'avais eu vraiment envie de trouver une façon de nous rendre la beauté de ses vers et de sa prose. Et donc, dans la musique, et surtout dans la musique moderne, j'allais pas partir avec une musique ancienne, compliquée, ou, vous voyez, je veux dire, un peu trop cérébrale. C'est pour ça que j'avais eu l'idée très vite de faire passer Peggy dans la musique populaire, en fait.
Dans la musique, même le heavy metal.
Même le heavy metal.
Qui est une sorte de musique un peu savante, au bord de l'expérimental, quand même,
oui,
avec la personne avec laquelle vous avez
très
travaillé.
Proche de la poésie, c'est-à-dire que le heavy metal, il est au bord de la transe. Et la transe, c'est la poésie. Peggy, c'est quelqu'un qui met le texte en transe. C'est-à-dire c'est un as de la répétition, quand même, Peggy. C'est très beau. Ces textes donnent le tournis, tellement il répète, ça tourne, ça donne le tournis, en fait. Et donc ça m'intéressait de trouver une musique, notamment avec Igor, trouver une musique qui donne le tournis comme la musique électronique peut le faire.
À quel moment vous avez eu l'idée précisément de ce film?
Quand j'ai eu l'idée, ben l'idée c'était surtout de... Moi j'avais envie de sortir du cinéma naturaliste, psychologique, parlant.
Oui.
Et donc, la comédie musicale est arrivée très vite. Mais c'est un peu comme le comique. Moi, j'aime bien le comique parce que ça me fait sortir du chemin. Justement, ça me permet de prendre des chemins de traverse. Et le film chantant, c'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui... On ne chante pas normalement. Et donc, le fait de faire chanter, je trouve qu'on a tout de suite une poésie naturelle, une grâce tout à fait propice à aller chercher des choses qui souvent sont enfouies dans notre tête ou dans notre corps.
Mais filmer une Jeannette qui chante et qui danse, qu'est-ce que ça vous permettait de dire du personnage ?
Bah justement, de fouiller à l'intérieur des commencements du sang, du cœur de Jeanne. C'est-à-dire de trouver comment tout cela a bien pu commencer. Et ça a forcément commencé d'une façon, si j'ose dire, temporelle, banale et ordinaire. Donc il fallait une petite fille.
Oui.
Je pense qu'on peut trouver dans une petite fille le cœur de Jeanne d'Arc. Et Lise, c'était ça, c'est trouver une petite fille qui était comme ça déjà un petit peu éclairée. Et Peggy lui fait rencontrer Jeanne d'Arc. C'est-à-dire qu'en mettant du Peggy dans Lise, Lise devient Jeanne d'Arc.
Alors dans votre filmographie, Bruno Dumont, il y a une autre figure iconique, bien française, c'est Camille Claudel.
Ouais.
Quel lien vous faites entre ces deux figures que vous filmez chacune à des moments de leur vie auxquels le cinéma ne s'était pas encore vraiment intéressé ?
Et bien voilà, c'est-à-dire justement de trouver dans les moments les plus anodins des grands héros et des grandes héroïnes, les moments les plus ordinaires. Parce que je pense que c'est justement dans cette espèce d'oisiveté de la sculptrice héroïque et de la guerrière héroïque qu'on trouve peut-être la germination de sa grandeur, et pas justement dans ses moments les plus glorieux. Et donc c'était trouvé aussi bien dans l'asile de Camille Claudel, dans ses moments les plus ordinaires, et en l'occurrence quand elle attendait son frère, ce qui est vraiment quelque chose d'assez commun, ou dans l'enfance de la petite Jeannette. Je pense que le commun, il est puissant à rendre finalement la fulgurance des choses. Parce que là, on a la fulgurance, on la voit naître, on la voit commencer. Après, c'est trop tard, quoi. Tandis que là, on peut vraiment... voir comment Jeannette devient Jeanne.
Et entre Camille Claudel et Jeanne d'Arc, vous voyez une filiation ?
Ah oui, ce sont des femmes héroïques, c'est-à-dire ce sont des grandes figures de l'histoire de France, donc des grandes figures de la féminité, des grandes figures de ce qu'est qu'une Française, de ce que ça veut dire. Ce sont des grandes Françaises, c'est-à-dire qu'elles drainent avec elles toute notre culture, qu'on ne peut pas scinder, qu'on ne peut pas cerner comme ça avec des mots, mais... Quand on filme Camille Claudel, on filme la Française, et quand on filme aussi ce que veut dire être Française, certainement, et plus encore ce que veut dire être Français, parce que ça va au-delà des sexes pour filmer finalement la nature humaine.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être Français ?
Bah justement, c'est donner une forme à la nature humaine, comme être américain, comme être juif, comme être musulman, comme être tunisien. Donc la nature humaine est belle dans les expressions de toutes les cultures.
Lise, le plat prud'homme est avec nous. Il fallait que ce soit une petite fille qui n'ait jamais été filmée.
Ah oui, parce qu'il faut l'innocence. Parce que là, on tenait les deux. Il faut à la fois, c'est une héroïne renommée, et en même temps, il fallait le contraire. C'est la beauté de l'acteur amateur, de l'acteur voilà, qui n'a jamais joué. C'est-à-dire qu'il vous donne quelque chose qui n'existe nulle part, c'est-à-dire justement une forme d'innocence, de virginité, de quelque chose qui va forcément naître. Donc il faut être toujours avant. Donc et avant, c'est justement l'innocence.
Comment vous la dirigez ? Comme vous dirigez vos autres acteurs ?
Bah, pour la première fois, elle a vraiment beaucoup appris. C'est-à-dire qu'il fallait... moi, d'habitude, les acteurs n'ont pas de scénario. Et là, ce n'était pas le cas du tout, parce qu'il fallait qu'elle connaisse Peggy. Donc elle a dû apprendre pendant des mois et des mois le texte. Ensuite, elle a dû apprendre les refrains et les airs de ses chansons. Et ensuite, elle a dû apprendre les chorégraphies. C'était un long apprentissage, en fait. Elle a beaucoup travaillé, en fait.
Juste un mot des chorégraphies. Après, je vous laisse, hein, Bruno Dumont. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, notamment, on va dire, des balancements au niveau de la tête. C'est quelque chose que vous affectionnez ? Ça vient de Philippe de Coufflet ou ça vient de vous, Bruno Dumont ?
Ça vient d'Igor.
Ouais.
C'est lui qui m'a parlé. C'est une figure de balancement de la tête de haut en bas qu'on trouve surtout dans les heavy metal, que Igor m'a fait découvrir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'exprimer justement quand le texte de Peggy devient au bord de l'obscurité, le seul recours, c'était justement la danse. Et je trouve qu'il y a dans le balancement, c'est-à-dire quand on danse, quand on bouge, quand on rentre en transe, il y a quelque chose qui est assez équivalent aux zones assez élevées de l'esprit qu'on n'arrive pas à atteindre. Et le corps arrive à faire dire des choses qu'on ne comprend pas. Et avec lui, je me souviens qu'il y avait des moments qui étaient un petit peu difficiles, où il y a des passages un petit peu difficiles. Et à ce moment-là, on dansait. Et ce balancement, je trouvais qu'il était assez merveilleux parce qu'il était très, très, très rythmique, en fait. Et donc, le corps prend un peu le secours de l'esprit pour monter en altitude, en fait. Ce qu'on sent très bien quand on est en transe et qu'on danse, hein, c'est-à-dire, c'est ça la danse, hein. C'est une forme d'extase. Hein.
Vous dansez, vous aussi ?
Ah, pas du tout.
Pas du tout ? Jamais ? Dans les fêtes, vous ne dansez pas, Bruno Dumont ?
Bah non, je danse plus, mais je l'ai dansé quand même autrefois, quand j'étais plus jeune, mais là, je danse pas. Mais je sais qu'il y a une espèce de trip du corps qui est assez proche du trip poétique qu'on peut avoir quand on lit un poème, en fait. Vous vous balancez d'avant en arrière comme ça pendant 30 secondes, je vous garantis que c'est exactement la même chose.
Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire.
Essayez.
Merci beaucoup. Merci, Bruno Dumont.
Merci à vous.
Au revoir. Donc laissé les bandes ravagées en flanc de nos maisons. Ma douce maison, je m'en vais pour de bon dans la bataille humaine.
Dans le film Lise, tu es Jeannette, enfant. Tu avais déjà voulu faire du cinéma ?
Pas forcément, mais ouais. C'est ma mamie qui a lu le journal et puis elle m'a dit qu'il y avait un casting. Du coup, ma sœur et moi, on a participé.
Et il y a des choses qui t'ont marqué ? Tu te souviens de choses très précises de ce que tu as vu à l'écran ?
La scène où je suis avec les deux petits garçons. Je suis en train de prier, ils m'appellent en demandant si j'ai du pain. Je leur dis. On va à côté d'un ruisseau, je leur donne. Et ensuite, le garçon et moi, on fait une danse. Et ensuite, je pars et puis ils repartent aussi.
Est-ce qu'il y a des choses qui étaient difficiles à faire pour ce film ?
Non.
Apprendre les textes, c'était pas difficile. Apprendre les chansons, c'était pas difficile. Non. Apprendre la poésie de Charles Péguy, c'était pas difficile.
Non.
Mais t'es un génie, alors. Eh bien, merci, Lise.
De rien.
Eh bien, c'est demain qu'on pourra retrouver dans les salles Lise le Pape Prud'homme dans Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, le film musical de Bruno Dumont. Tout de suite, notre Jeanne d'Arc à nous, c'est Valie, pour son tac au tac.
Une mec ?
Mais non, pas toi. Une américaine. Ma voiture américaine.
Alors, tac au tac, lui aussi, a écrit un conte musical pour le jeune public. Ça s'appelait Georgia. C'est Albin de la Simone. Il est musicien, producteur, auteur, compositeur et arrangeur. C'est une fine oreille, un auteur qui écrit d'une manière ciselée les émotions de tous les jours. Je l'ai croisé juste avant son concert au Fnac Live à l'Hôtel de Ville de Paris pour soumettre mon interview tac au tac, la musique pour le meilleur, pour le pire. Quel est le premier disque acheté ? Albin de la Simone.
Kiss. L'album s'appelle Dynasty, c'est celui sur lequel il y a I Was Made For Loving You. C'est la période disco de Kiss, c'est spécial. J'avais 9 ans. J'en étais fou, 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 fou.
La musique qu'écoutaient vos parents ?
Mon père écoutait Armstrong, Billie Holiday, beaucoup. Ma mère écoutait Souchon, qui arrivait progressivement pendant mon enfance. Il y avait Brassens aussi, mais je tripais pas trop.
Premier instrument ?
Piano. Le piano de la maison. Et ça, c'est un truc que je recommande à tout le monde. Ayez un piano chez vous quand vous avez des enfants, parce que les enfants, ils vont faire gling-glong, un truc acoustique, pas qu'il faut allumer, un truc qui est présent et sur lequel il suffit d'appuyer, et ça peut générer des... même si vous n'êtes pas musicien.
Première idole ?
Higelin, à l'époque de Champagne. Une émission de télé, c'est peut-être numéro 1, il y avait Michel Berger, France Gall, Higelin, Bachung qui chantait Gabi, et j'ai découvert tout ça en même temps, et c'était une grosse claque. Higelin chantait en duo avec Michel Berger, le débit de l'eau, débit de lait. Il y avait Coluche qui chantait Si maman si. C'est une émission qui m'a marqué vraiment.
Le meilleur endroit pour composer ou écrire ?
C'est pas lié à l'endroit, c'est lié à la possibilité de se connecter avec ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc c'est loin de chez soi, loin des problématiques du quotidien, mais ça peut être à 10 mètres ou à 10 000 kilomètres. Ça peut être sur une plage ou dans une cave, je m'en fous. C'est une manière de se tourner vers soi, donc ça ne dépend pas de l'environnement.
Albin de la Simone, le premier concert auquel vous avez assisté ?
J'ai vu plein de fois mon père jouer du New Orleans. Quand on partait en vacances, il jouait au Club Med et ça nous payait les vacances. Mais le premier concert dont je me souviens, où ma mère m'a amené, c'était une tournée de Souchon-Woolsey, ensemble. Woolsey qui jouait une heure en premier, qui chantait Cœur Grenadine, Port Grimaud et tout, et Souchon après qui chantait, qui faisait un concert. Et j'ai dessiné le piano électrique Fender Rhodes de Woolsey, je l'ai dessiné pendant des années après, et après j'en ai eu un.
Pire expérience sur scène ?
J'ai accompagné des bals, notamment sur une croisière, il y a longtemps, très longtemps, Et je me souviens d'un jour de tempête, les cymbales de la batterie tombaient. Moi, je tenais mon clavier pour pas que ça se renverse. Imaginez les gens qui dansaient et qui dégueulaient en même temps qu'ils dansaient. Et on les voyait passer de droite à gauche, tomber, glisser sur leur vomi. C'était affreux.
La musique qui vous fait éteindre la radio?
Il y a vraiment un son qui me fait éteindre la radio, c'est l'autotune, ce qu'il y avait sur la voix de Cher dans Do You Believe. Bon, maintenant il y en a partout, dans plein de trucs. Le son de la voix qu'on trouve tout le temps dans le rap, mais même dans une dernière chanson de Biolay, ça pour moi c'est rédhibitoire, c'est vraiment un truc, je ne peux pas comprendre qu'on fasse ça. Et moi s'il y a ça, c'est mort.
Résultat, Albin de la Simone vient de couper la radio.
Exactement, on l'embrasse quand même. Alors, Albin serait en concert le 29 septembre à Bordeaux. Il passera en octobre par Sébaza, Fontaine, Rumigny et Rungis et fait une halte au Café de la Danse à Paris du 11 au 15 décembre.
Le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver après le journal. Il sera 23h15. On se retrouvera avec ça.
Tu vas à l'école demain?
Ouais.
Tu connais bien le chemin? Tu sais qu'il y a des éléphants?
Ouais, je sais.
Eh bien oui, on repart sur le chemin de l'école avec des éléphants pour la saga Phénomène. Le rendez-vous est pris. À tout de suite.